Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 10. Il restait 5000 panthères dans le monde. Statistiquement, on comptait davantage d'êtres humains vêtus de manteaux de fourrure. Les onces se terraient dans les massifs centraux du Pamir afghan au Tibet oriental, de l'Altaï à l'Himalaya. L'aire de répartition correspondait à la carte des aventures historiques de la Haute-Asie. Les hommes s'étaient comportés là comme des fauves très méritants. Meunier, lui, patrouillait depuis 4 ans sur la bordure orientale de la zone. Les chances restaient minces d'apercevoir une ombre dans un espace grand comme un quart de l'Eurasie. Pourquoi mon camarade ne s'était-il pas spécialisé dans le portrait humain, métier d'avenir ? 1,5 milliard de Chinois contre 5000 panthères. Ce garçon cherchait la difficulté. Les vautours se relayaient, sentinelles du requiem. Les crêtes recevaient le jour en premier. Un faucon aspergeait le vallon de sa bénédiction. Le tour de garde des oiseaux charognards m'hypnotisait. Il veillait à ce que tout se passât bien sur terre, c'est-à-dire que la mort emporte son lot de bêtes et pourvoie les rations. En bas, sur les pentes rapides qui biseautaient la gorge, les yaks broutaient. J'attribuais à chacun des animaux une place sur l'échelle sociale du royaume. La panthère était la régente et son invisibilité confirmait son statut. Elle régnait et n'avait donc pas besoin de se montrer. Les loups vaquaient en princes félons, les yaks faisaient de gros bourgeois chaudement vêtus, les lynx des mousquetaires, les renards des hobereaux de province, tandis que les chèvres bleues et les ânes incarnaient le peuple. Les rapaces, eux, symbolisaient les prêtres, maîtres du ciel et de la mort, ambigus. Ces ecclésiastiques à livrée de plumes n'étaient pas contre que quelque chose tournât mal pour nous. Le paysage était mon école d'art. Pour apprécier la beauté des formes, il faut une éducation de l'œil. Les études de géographie m'avaient donné les clés des vallées alluviales et des auges glaciaires. L'école du Louvre m'aurait initié aux nuances du baroque flamand et du maniérisme italien. Je ne trouvais pas que la production des hommes surclassât la perfection des reliefs, ni les vierges florentines, la grâce des chèvres bleues. Pour moi, Meunier tenait de l'artiste davantage que du photographe. Meunier n'était pas indifférent au versement de la bête dans les arts. Lui-même battait le rappel des fauves. Des esprits monotones reprochaient à notre ami de saluer la beauté pure et elle seule. C'était considéré comme un crime dans une époque d'angoisse et de moralité. « Et le message, lui disait-on, et la fonte des glaces. » Dans les livres de Meunier, Les loups flottaient en plein vide arctique. Les grues du Japon s'en mêlaient dans leur danse et des ours légers comme des flocons disparaissaient derrière la vapeur. Nulle tortue étouffée par les sacs en plastique, rien que des bêtes en leur beauté. Pour un peu, on se serait cru dans l'Éden. « On m'en veut d'esthétiser le monde animal », se défendait-il, « mais il y a suffisamment de témoins du désastre. Je traque la beauté. Je lui rends mes devoirs. C'est ma manière de la défendre. » Chaque matin, dans le vallon, nous attendions que la beauté descendent les Champs-Élysées. Nous savions qu'elle rôdait. Parfois, je la voyais. Ce n'était qu'un rocher, ce n'était qu'un nuage. Je vivais dans son attente. Je voulais voir la panthère. J'étais venue pour elle. Car son apparition serait mon offrande à cette femme dont j'étais séparée. Et même si ma politesse, c'est-à-dire mon hypocrisie, faisait croire à Munier que je le suivais pour la seule admiration de ses travaux de photographe, je désirais une panthère. J'avais mes raisons. Elles étaient intimes. Munier pouvait rester une journée à inspecter des parois, centimètre par centimètre. Il me suffirait d'apercevoir une trace d'urine sur un rocher, disait-il. Le deuxième soir de notre arrivée dans le canyon, nous revenions vers le campement des Tibétains quand nous la croisâmes. Le ciel diffusait encore une faible lumière. Munier la repéra à 150 mètres de nous, plein sud. Il me passa la longue vue, m'indiqua précisément l'endroit où viser, mais je mis un long moment à la détecter, c'est-à-dire à comprendre ce que je regardais. Cette bête était pourtant quelque chose de simple, de vivant, de massif, mais c'était une forme inconnue à moi-même. Or, la conscience met du temps à accepter ce qu'elle ne connaît pas. L'œil reçoit l'image de pleine face, mais l'esprit refuse d'en convenir. Elle reposait, couchée au pied d'un ressaut de rocher déjà sombre, dissimulé dans les buissons. Le ruisseau de la gorge serpentait 100 mètres plus bas. On serait passé à un pas sans la voir. Ce fut une apparition religieuse. Aujourd'hui, le souvenir de cette vision revêt en moi un caractère sacré. Elle levait la tête, humait l'air. Elle portait l'héraldique du paysage tibétain. Son pelage, marqueterie d'or et de bronze, appartenait au jour, à la nuit, au ciel et à la terre. Elle avait pris les crêtes, les névées, les ombres de la gorge et le cristal du ciel, l'automne des versants et la neige éternelle, les épines des pentes et les buissons d'armoise, le secret des orages et des nuées d'argent, l'or des steppes et le linceul des glaces, l'agonie des mouflons et le sang des chamois. Elle vivait sous la toison du monde. Elle était habillée de représentations. La panthère, esprit des neiges, s'était vêtue avec la terre. Je la croyais camouflée dans le paysage. C'était le paysage qui s'annulait à son apparition. Par un effet d'optique digne du zoom arrière cinématographique, à chaque fois que mon œil tombait sur elle, le décor reculait, puis se résorbait tout entier dans les traits de sa face. Née de ce substrat, elle était devenue la montagne. Elle en sortait. Elle était là, et le monde s'annulait. En somme, un gros chat avec des taches jaillissait du néant pour occuper son paysage. Nous restâmes jusqu'à la nuit. La panthère somnolait, épargnée de toute menace. Dans ma jumelle, je la vis s'étirer. Elle se recoucha. Elle régnait sur sa vie. Elle était la formule du lieu. Sa seule présence signifiait son pouvoir. Le monde constituant son trône, elle emplissait l'espace là où elle se tenait. Munier me passa la lunette la plus puissante. Je scrutai la bête jusqu'à ce que mon œil se dessèche dans le froid. Les traits de la face convergeaient vers le museau en ligne de force. Elle tourna la tête, pleine face. Les yeux me fixèrent. C'étaient deux cristaux de mépris, brûlants, glacial. Elle se leva, tendit l'encolure vers nous. Elle nous a repérés, pensais-je. Que va-t-elle faire? Bondir? Elle bâilla. Voilà l'effet de l'homme sur la panthère du Tibet. Elle nous tourna le dos, s'étira, disparut.
À demain pour un 11e extrait.